Chapitre 23. Molly repêcha la clé au bout de sa cordelette de nylon. « Tu sais, » dit Trudgen, penché en avant avec curiosité, « j'avais toujours eu l'impression qu'il n'en existait aucun double. J'avais envoyé Hideo fouiller les affaires de mon père après que tu l'as eu tué. Il a été incapable de retrouver l'original. » Muediver était parvenu à la planquer dans le fond d'un tiroir, dit Molly, en insérant avec délicatesse la tige cylindrique de la clé de choube dans l'ouverture crantée percée sur le panneau lisse et rectangulaire de la porte. Il a tué le gosse qu'il y avait mise. La clé pivota en douceur lorsqu'elle la fit jouer. « La tête, » dit Kez. « Il y a un panneau à l'arrière de la tête, avec des zircons dessus, faut l'enlever. C'est là que je dois me brancher. » Et ils se retrouvèrent à l'intérieur. « Bordel de Dieu !» s'exclama le Très-Plat d'une voix traînante. « T'aimes bien de prendre du bon temps, pas vrai, gamin ?» Le Kuang est paré, il piaffe d'impatience. « D'accord. » Il cliqua. Et se retrouva en train de contempler, par l'œil intact de Molly, un visage livide et ravagé, flottant mollement en position fœtale, une console de cyberspèce entre les cuisses, un bandeau de trod argenté collé sur le front, au-dessus de ses yeux clos et cernés. L'homme avait les joues creusées par une barbe noire d'un jour, le visage luisant de sueur. L'homme qu'il était en train de contempler, c'était lui. Molly avait le flécheur dans la main. Sa jambe l'élançait douloureusement à chaque battement de pouls, mais elle était encore capable d'évoluer en gravité zéro. Malcolm flottait non loin, en serrant le bras mince de Trudgen dans sa grande poigne noire. Un ruban de fibre optique raccordait en une boule gracieuse l'Ono Sendai à une ouverture carrée située à l'arrière du terminal incrusté de perles. Kez bascula de nouveau l'interrupteur. Le Kuang expert type 11 te botte le cul dans 9 secondes. Top, 7, 6, 5. Le Très-Plat les cliqua vers le haut. Ascension douce, l'espace d'une microseconde, éclair obscur de la surface ventrale du requin de chrome noir. 4, 3. Kez avait l'étrange impression de se trouver dans le siège du pilote d'un petit avion. Une surface plate et noire apparut soudain, brillante devant lui. Reproduction parfaite du clavier de sa console. 2, et c'est parti. Propulsion tout droit à travers des parois vert émeraude, de jade laiteux, sensation de vitesse au-delà de tout ce qu'il avait connu jusque-là dans le cyberspace. La glace, Tessier H-Poule se brisa, se rétractant sous la poussée du programme chinois, inquiétante impression de fluidité solide, comme si les éclats d'un miroir brisé se courbaient en s'allongeant dans leur chute. « Bon Dieu !» fit Kez abasourdi, tandis que le Kuang se tordait et virait au-dessus des étendues dépourvues d'horizon, des tors. Les mémoires de masse de la Tessier H-Poule, infinies, d'un paysage urbain, détouré en traits fluorescents, trames complexes, qui tranchaient l'œil, éclatante comme diamant, acérée comme rasoir. « Eh, merde !» lança le construct. « Mais ces trucs-là, c'est le gratte-ciel RCA. Tu connais le vieux gratte-ciel de la RCA ?» Le programme Kuang plongeait entre les flèches scintillantes d'une douzaine de tours de données identiques, chacune la réplique en fluo bleu des gratte-ciel de New York. « Déjà vu une résolution aussi élevée ?» demanda Kez. « Non. » « Mais j'avais jamais encore craqué une IA non plus. »« Ce truc, c'est où il va ?»« Vaudrait mieux. » Ils étaient en train de plonger, perdant de l'altitude dans un canyon de néon arc-en-ciel. « 10 !» Un bras d'ombre se déroulait depuis le plancher clignotant au-dessous, masse grouillante de ténèbres, amorphe, informe. « V'là de la compagnie !» remarqua le Très-Plat, tandis que Kez pianotait sur la représentation de sa console, les doigts volant machinalement sur les touches du clavier. Le Kuang oscilla vertigineusement, puis repartit en arrière, pour remonter à reculons, faisant définitivement éclater l'illusion d'un véhicule physique réel. La chose d'ombre grandissait, s'étendait, obscurcissant la cité de données. Kez les fit grimper tout droit, et ils n'eurent plus, au-dessus d'eux, que l'incommensurable coupole de glace verjade. La cité des Tors avait disparu maintenant, totalement obscurcie par la masse des ténèbres. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un système de défense par IA, dit le construct, ou du moins une partie de celui-ci. Si c'est ton pote médiver, il n'a pas l'air franchement amical. Prends-le, Kez, t'es plus rapide. Là, gamin, la meilleure défense, c'est encore une bonne attaque. Sur quoi, le très plat pointa le dard acéré du nez du Kuang en plein dans les ténèbres en dessous d'eux. Et il piqua. Leur célérité faussait les entrées sensorielles de Kez. Sa bouche s'emplit d'un douloureux goût d'outre-mer. Ses yeux étaient des œufs de cristal instable, vibrant avec une fréquence dont le nom était la pluie mêlée au fracas des trains, pour s'épanouir soudain dans le jaillissement bourdonnant d'une forêt d'arêtes de verre fine comme des cheveux. Ces arêtes se divisaient, bifurquaient, se divisaient encore, croissance exponentielle sous le dôme de la glace Tessier-Hachepoul. La voûte de son palais se fendit sans douleur, pour laisser entrer des radicelles qui fouettaient les alentours de sa langue, avides de goûter l'outre-mer, de nourrir les forêts cristallines de ses yeux, des forêts qui pressaient contre le dôme vert, pressaient pour être entravées, mais s'étendaient malgré tout, en poussant cette fois vers le bas, en plissant tout l'univers de la Théa, pour redescendre vers les infortunés faubourgs de la cité offerte, qui était l'esprit de la Tessier-Hachepoul-Essa. Et lui revint alors une histoire ancienne, un roi qui disposait des pièces sur un échiquier, doublant la somme à chaque case. Progression exponentielle. Les ténèbres tombèrent de toutes parts, une sphère de ténèbres brasillantes, pression sur le cristal distendu des nerfs de cet univers de données qu'il était pratiquement devenu. Et lorsqu'il ne fut plus rien, compressé au cœur même de toute cette obscurité, vint un point où l'obscurité ne pouvant plus s'accroître, quelque chose se déchira. Le programme Kuang jaillit du nuage sombre. La conscience de Kez se divisa comme autant de gouttelettes de mercure, décrivant un arc au-dessus d'une plage infinie de la couleur des nuages d'argent ternis. Sa vision était sphérique, comme si une rétine unique recouvrait la surface intérieure d'un globe qui contenait toute chose, si toute chose pouvait être dénombrée. Et certes, ici, chaque catégorie d'objets pouvait être dénombrée. Il savait le nombre de grains de sable que contenait la reconstitution de la plage, un nombre codé dans un système mathématique qui n'existait nulle part ailleurs que dans cet esprit qui était neuromancien. Il savait le nombre de paquets de rations jaunes contenus dans les caisses à l'intérieur de la casemate, 407. Il savait le nombre de dents de liaison dans la moitié gauche de la fermeture éclair ouverte du blouson de cuir, incrusté de sel que Linda portait, tandis qu'elle parcourait d'un pas lourd la grève au crépuscule, balançant un morceau de bois d'épave dans sa main, 202. Il fit virer le Kuang au-dessus de la plage et décrire au programme un large cercle, voyant par les yeux de Linda approcher l'objet en forme de requin noir, silencieux spectre affamé sur fond de nuages de plus en plus bas. Elle se baissa apeurée, puis laissa tomber son bâton et partit au pas de course. Il savait le rythme de son pouls, savait la longueur de ses pas avec une précision qui aurait satisfait les critères les plus exigeants de la géophysique. « Mais tu ne sais pas ses pensées, » dit le garçon à ses côtés maintenant, « au cœur même de la chose requin. »« Je ne sais pas ses pensées, tu t'es trompé, Kez. Vivre ici, c'est vivre pour de vrai, il n'y a pas de différence. » Panique de Linda, qui se jette dans les flots à l'aveuglette. « Arrête-la, elle va se faire mal. »« Je ne peux pas l'arrêter, » dit le garçon, doux regard de ses beaux yeux gris. « Tu as les yeux de Riviera, » observa Kez. Éclair des dents blanches, longues gencives roses. « Mais pas sa folie, parce que pour moi, ils sont beaux, ces yeux. » Il haussa les épaules. « Je n'ai besoin d'aucun masque pour te parler. Au contraire de mon frère, je crée ma propre personnalité. La personnalité est mon moyen d'expression. » Kez les fit grimper à nouveau, ascension en chandelle, loin de la plage et de la fille terrorisée. « Pourquoi faut-il que tu me la balances tout le temps entre les jambes, espèce de sale petit connard ? Encore et encore à me faire tourner en rond ? Tu l'as tué, hein, Hachiba ?»« Non, » dit le garçon. « Medivher ? Non. J'ai vu venir sa mort. À travers les structures que tu as cru parfois pouvoir détecter dans la danse de la rue. Ces structures sont bien réelles. Je suis suffisamment complexe dans mon étroit domaine pour savoir lire ces danses. Bien mieux que Medivher. J'ai vu sa mort dans le besoin qu'elle avait de toi, dans le code magnétique du verrou de la porte de ton cercueil à l'hôtel Echo, dans le contrat de Julie Dean avec un tailleur de Hong Kong, aussi clair pour moi que l'ombre d'une tumeur l'est pour le chirurgien examinant la radio d'un patient. Lorsqu'elle a porté ton Hitachi à son copain, pour qu'il essaye d'y accéder, elle n'avait aucune idée de ce qu'il contenait, encore moins du prix qu'elle pourrait en tirer. Et son souhait le plus cher était que tu la pourchasses et la punisses. Je suis intervenu. Mes méthodes sont bien plus subtiles que celles de Meudiver. Je l'ai amenée ici, en moi. Pourquoi ? J'espérais pouvoir t'y amener également et t'y garder, mais j'ai échoué. Bon, et maintenant ? Il vira pour leur faire réintégrer le banc de nuages. Où va-t-on à présent ? Je n'en sais rien, Kez. Ce soir, la matrice elle-même se pose la question. Parce que tu as gagné. Tu as déjà gagné, ne le vois-tu pas ? Tu as gagné quand tu t'es éloigné d'elle sur la plage. Elle était ma dernière ligne de défense. Je vais bientôt mourir, en un sens. Tout comme Meudiver. Aussi certainement que Riviera est en train de mourir, gisant paralysé au pied d'un pan de mur, dans les appartements de Madame Troitjen Marie-France, son corps strié, devenu incapable de produire les récepteurs de dopamine qui pourraient le sauver du trait de Hideo. Mais Riviera survivra rien que par ses yeux, si j'ai la possibilité de les garder. Mais il reste bien le mot, d'accord ? Le code ? Alors, comment ai-je fait pour gagner ? J'ai gagné de la merde, oui. Allez, bascule maintenant. Où est Dixie ? Qu'as-tu fait du tréplat ? McCoy Paulet a vu son souhait exaucé, dit le garçon, et il sourit. Son souhait est même plus. Il t'a cliqué ici contre mon gré, puis s'est incrusté au travers de défenses sans égales dans toute la matrice. À présent, tu bascules. Et Kez se retrouva seul dans le dard noir du Kuang, perdu dans le nuage. Il bascula. Dans la tension de Molly, le dos rigide comme roc, les mains serrées autour de la gorge de Troitjen. Marrant, disait-elle. Je savais exactement de quoi vous auriez l'air. Je l'ai compris, sitôt Cashpool eût fait subir le même sort à votre sœur clonée. Ses mains étaient douces, presque une caresse. Les yeux de Troitjen étaient agrandis de terreur et d'envie. Elle frissonnait de peur et de désir. Au-delà de l'entrelac des cheveux de Troitjen, hérissés dans l'impesanteur, Kez vit son propre visage, livide et tendu. Maelkoum derrière lui, main noire posée sur le blouson de cuir, aux épaules, pour le maintenir au-dessus du tapis tissé d'un motif de circuit imprimé. « Le ferais-tu » demandait Troitjen d'une voix d'enfant. « Je crois que oui. »« Le code, » dit Molly. « Dites à la tête de le code. » Décrochage. « Elle attend que ça, » hurla-t-il. « La salope n'attend que ça. » Il ouvrit les yeux pour se retrouver, face au regard de rubis froid du terminal, visage de platine incrusté de perles et de lapis. Plus loin, Molly et Troitjen se tordaient dans une étreinte au ralenti. « File-nous ce putain de code, » dit-il. « Si tu le fais pas, ça changera quoi ? Qu'est-ce que ça pourra bien changer pour toi, bordel ? Tu finiras comme le vieux, à flanquer tout par terre, pour tout rebâtir ensuite, reconstruire les murs de plus en plus serrés. J'ai pas la première idée de ce qui se produira si Meudiver gagne, mais au moins, ça changera quelque chose. » Il tremblait et claquait des dents. Troitjen devint inerte, les mains de Molly toujours serrées autour de sa gorge fine, ses cheveux noirs volants, emmêlés, coiffe brune et douce. « Le palais ducal à Mantoue, dit-elle, comprend une série de pièces de plus en plus petites. Elles s'enroulent autour des appartements d'apparat, derrière les embrasures de portes superbement sculptées qu'il faut se baisser pour franchir. Elles abritent les nains de cour. » Elle sourit tristement. « Je pourrais aspirer à cela, je suppose. Mais dans un sens, ma famille a déjà réalisé une version plus grandiose, encore du même projet. » Son regard était calme à présent, lointain. Puis elle baissa les yeux sur Kez. « Je te prends au mot, chef. » Il décrocha. Le Kuang sortait des nuages. Au-dessous de lui, la cité de Néon. Derrière lui, une sphère de ténèbres rétrécissait. « Dixie, t'es ici, gars ? Tu m'entends, Dixie ?» Il était seul. Le salaud t'a eu. Élan aveugle, tandis qu'il déboulait à travers l'infini de l'espace de données. « Faut que tu te trouves quelqu'un à haïr avant que tout soit terminé, » dit la voix du Finnois. « Eux, moi, peu importe. »« Où est Dixie ?»« C'est plutôt coton à expliquer, Kez. » La sensation de présence du Finnois l'engloba. Odeur de cigarette cubaine, odeur de fumée qui imprègne le tweed moisi, vieille machine abandonnée aux rituels minéraux de la rouille. « La haine t'aidera à t'en sortir, » dit la voix. « Tant de petites gâchettes dans le cerveau. Et toi qui t'amuses à les tripoter toutes. Maintenant, il faut que tu haïsses. Le verrou qui bloque les liaisons câblées, il se trouve sous ces tours que le tréplat t'a montré, quand t'es entré. Lui, il n'essaiera pas de t'arrêter. Neuromancien, dit Kez. Son nom n'est pas du domaine de mes connaissances, mais il a renoncé maintenant. C'est de la glace Théa que tu dois te préoccuper. Pas le mur, mais les systèmes de virus internes. Le Kuang est particulièrement vulnérable au genre de bricole qu'ils ont pu lâcher là-dedans. Haïr, dit Kez. Qui dois-je haïr? Dis-moi un peu. Qui aimes-tu? Demanda la voix du Finnois. Il fit négocier au programme un virage sur l'aile et piqua vers les tours bleues. Des objets se lançaient du haut des flèches soleil décorées, silhouettes de sangsues luisantes, faites de plans fluctuants de lumière. Il y en avait des centaines qui s'élevaient en tourbillon, avec ce mouvement aléatoire des papiers chassés par le vent au long des rues à l'aube. Boucle de distorsion transitoire, dit la voix. Il plongea en piqué, dynamisé par son mépris de soi. Lorsque le programme Kuang heurta le premier des défenseurs, éparpillant les feuilles de lumière, il sentit la chose requin perdre une partie de sa substance, sentit la trame d'information se relâcher. Et puis la vieille alchimie du cerveau et sa vaste pharmacopée, sa haine, revint affluer dans ses mains. À l'instant même de jeter le dard du Kuang à travers la base de la première tour, il avait atteint un niveau de rendement qui dépassait tout ce qu'il avait connu ou imaginé. Au-delà de l'ego, au-delà de la personnalité, au-delà de la perception consciente, il évoluait, le Kuang avec lui, retrouvant le pas de danse antique pour esquiver les assaillants, la danse de Hideo, grâce à l'interface corps-esprit accordée à lui en 7 secondes, même par la clarté et l'unicité de son désir de mort. Et l'un des pas de cette danse était le léger effleurement de la touche, à peine assez pour basculer. Maintenant, et sa voix comme le cri d'un oiseau inconnu, 3 djens répondant par un chant, 3 notes, hautes et pures, un nom vrai. Forêt de néon, grésillement de la pluie sur le pavé brûlant, l'odeur de friture, les mains d'une fille refermées sur ses fesses dans l'obscurité moite d'un cercueil près du port. Mais tout cela s'éloigne en même temps que le paysage urbain. Une cité comme Chiba, comme les empilements de données de la Tessier Hpou Lessa, les routes et les croisements inscrits sur la face d'une micropuce, le motif caché de sueur sur un fichu noué, plié. Éveil au son d'une voix qui était musique, le terminal de platine qui chantait d'une voix flûtée, mélodieuse, répétant à l'infini les chiffres de comptes numérotés en Suisse, les montants de paiement à virer sur Sion via une banque orbitale des Bahamas, parlant de passeport et de passage, et des changements profonds et fondamentaux à opérer dans la mémoire de Turing. Turing. Il se souvint d'une chair, imprimée sous un ciel projection, viande balancée par-dessus une rambarde en fer. Il se souvint de Desiderata Street, et la voix chantait toujours, le rappelant à l'obscurité, mais c'était son obscurité personnelle, poux et sang, celle où il avait toujours dormi derrière ses paupières, et celle de nul autre. Alors, il s'éveilla de nouveau, croyant avoir rêvé, face à un large sourire blanc encadré d'incisives d'or. Aréole qui le bouclait dans un harnais entigé à bord du Babylon Rocker. Et, face enfin à la longue pulsation de dub de Sion.